Radion. Radion, la matinale sur Radion.
Tout juste 11h et 5 minutes pratiquement, et toujours dans la matinale, ceci jusqu'à midi avec moi-même Léon. Et j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Isabelle Lirand, vice-présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, en charge de la formation professionnelle des demandeurs d'emploi, des mutations économiques et du dialogue social territorial. Elle est également conseillère municipale sur la commune de Corbigny dans la Nièvre. Bonjour Isabelle.
Bonjour, merci de votre invitation.
Isabelle, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre rôle en tant que vice-présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté?
Oui, tout à fait. Donc brièvement, il s'agit de s'adresser au public demandeur d'emploi de la région Bourgogne-Franche-Comté pour ce qui est de la formation professionnelle quand ils en ont besoin, de s'adresser aussi aux salariés dans le cadre des mutations économiques et de favoriser les reconversions ou l'accompagnement vers d'autres métiers ou une meilleure professionnalisation dans le cadre de leur activité actuelle, et dans le cadre du dialogue social territorial, plutôt d'accompagner des projets de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences par filière ou territoriale avec les élus locaux, tous ceux ou toutes celles qui veulent s'emparer de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour l'avenir sur les territoires.
Comment se porte l'emploi au niveau de la Bourgogne-Franche-Comté?
Écoutez, actuellement, l'emploi est encore quelque chose qui est favorable pour les personnes qui recherchent. Depuis d'ailleurs la sortie du Covid, ça a été constaté. Il y a des tensions de recrutement. D'ailleurs, les employeurs pourraient facilement vous le dire, qui n'a pas de difficulté à recruter du personnel et des agents actuellement, puisque ça concerne aussi bien les emplois privés que les emplois publics, hein, la fonction publique aussi a des difficultés. Et donc ce qui est actuellement en ligne de mire, c'est de pouvoir aider ceux qui en ont donc le plus besoin, qui restent inscrits à France Travail, qui restent suivis par les missions locales par exemple, ou qui sont suivis aussi par Cap Emploi quand ils ont un problème de santé, pour avoir une formation leur permettant d'accéder plus facilement à l'emploi, puisque les autres personnes n'ont apparemment moins de difficultés, peuvent passer d'un emploi à l'autre actuellement plus facilement, et on espère que ça peut continuer comme ça, en tout cas pour eux.
Que pensez-vous de la conversion de Pôle emploi en France Travail?
Alors, y ayant travaillé, mais n'y travaillant plus actuellement, puisque je suis en disponibilité pendant le mandat que j'occupe à la région, je ne vais pas forcément avoir un recul nécessaire pour en parler. L'ex-conseillère vous dirait que Pôle emploi avait déjà...
Elle avait déjà son vécu,
il y avait déjà l'expérience. Moi-même, je suis issue de la NPE, donc ça, c'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, n'est-ce pas? Où il y avait un accompagnement de proximité, où on s'occupait aussi du volet social, etc. Là, je ne peux pas me prononcer sur cette conversion, d'autant plus qu'elle est en train de se faire, puisque Pôle emploi devient France Travail courant de l'année 2024, donc c'est en cours. Voilà. Ce que j'espère, c'est que ça sera bénéfique pour les demandeurs et les demandeuses d'emploi. Voilà. Donc la région, par contre, s'inscrit dans le partenariat avec ces structures, bien sûr.
Isabelle, on part sur une pause musicale. On se retrouve dans un tout petit moment. À de suite.
Le top de la pop, c'est sur Radion. La matinale sur Radion.
Pratiquement 11h17, toujours avec Léon jusqu'à midi, et avec Isabelle Lirand, qui est vice-présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, en charge de la formation professionnelle des demandeurs d'emploi, des mutations économiques et du dialogue social territorial. Et elle est également conseillère municipale du côté de Corbigny. Isabelle, rebonjour.
Bonjour.
Quels sont les principaux défis auxquels vous êtes confrontés dans votre mission au sein du conseil régional Bourgogne-Franche-Comté?
Alors, plusieurs défis. C'est l'un des premiers, c'est de s'adresser et de pouvoir répondre aux besoins des personnes en difficulté les plus éloignées de l'emploi. Le second, de pouvoir avoir des formations qui puissent intéresser les employeurs pour recruter ces mêmes demandeurs d'emploi, de fonctionner pour l'avenir, c'est-à-dire avec l'évolution à la fois des secteurs, des filières et des métiers, et l'évolution aussi tient compte bien entendu des évolutions climatiques. On en parle beaucoup actuellement avec les inondations, mais les dégradations, l'évolution du climat, etc. Et les métiers vont évoluer bien entendu, mais nous ne savons pas à l'avance dans quelle direction, et en tout cas nous sommes prêts à nous adapter bien entendu, et à permettre aussi aux demandeurs, aux demandeuses d'emploi et aux employeurs de s'adapter. Donc nous avons déjà en ligne de mire des formations qui puissent tenir compte de ces évolutions, aussi bien dans l'agriculture que tout ce qui est biodiversité, bâtiment avec l'écologie, le renouvelable, le recyclage, etc. Essentiellement ça. Une autre priorité qui est importante pour nous, c'est la mixité des publics, aussi bien les jeunes et les moins jeunes dans les formations et dans les emplois, et aussi la parité, si on peut l'appeler comme ça, mais en tout cas permettre aux jeunes filles de ne pas se contenter et se cantonner dans les métiers classiquement dédiés aux jeunes femmes, et à l'inverse, les métiers qui sont classiquement dits réservés aux jeunes femmes ou moins jeunes d'ailleurs, les ouvrir aux hommes pour évoluer dans tous les sens, et qu'il n'y ait pas de chasse gardée, si on peut dire, et en tout cas de permettre à tout un chacun de s'épanouir dans son métier et dans son évolution de carrière. Ça, c'est aussi nos priorités, bien entendu.
À spécifier que le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté ne pratique pas de formation. Ces formations sont choisies comment ? Est-ce que c'est l'entreprise qui en fait la demande, ou est-ce que c'est une étude au niveau territorial ?
Eh bien, nous avons les deux, justement, c'est-à-dire que nous sommes en relation étroite et régulière avec les territoires. Dans chaque département, il y a des réunions très très régulières, aussi bien avec les partenaires que sont France Travail maintenant, les missions locales, la GFIP et les Cap Emploi pour les personnes reconnues travailleurs handicapés, plus l'État en département, donc préfecture, sous-préfecture, plus l'intérim aussi, donc j'en oublie, alors je m'excuse auprès de ceux et celles que j'oublierai, de manière à faire remonter auprès de nous les besoins et de les adapter en fonction des recrutements en cours. Nous avons donc le schéma régional de formation qui est fait pour plusieurs années en amont. Là, par exemple, pour 2024, on a passé les marchés en 2023.
D'accord.
Et donc, au fur et à mesure, nous passons les marchés, nous les reconduisons et nous les adaptons aux besoins.
Ces formations, elles sont valables combien de temps ?
Tout dépend, bien entendu, de la formation en question. Valable, ça dépend pour l'employeur ou pour le demandeur d'emploi.
Pour le demandeur d'emploi.
Pour le demandeur d'emploi. Un demandeur d'emploi, une demandeuse d'emploi, quand il a besoin ou il a besoin d'une formation, s'adresse à son accompagnateur, accompagnatrice de sa structure. Et ensuite, c'est comme ça qu'on déroule finalement l'accompagnement. La région n'accompagne pas en direct, mais en achetant, puisqu'on fait bien parler finances, en achetant les formations et les accompagnements qui vont avec, ça permet à la personne d'avoir tout un processus de formation. Et on essaie aussi que ce processus ne s'arrête pas à la porte de l'entreprise. Par exemple, quelqu'un pourrait avoir validé quelques modules dans la formation, mais ne pas avoir le diplôme encore ou le titre professionnel, être recruté, et on va essayer de faciliter son retour en formation en alternance ou alors par des modules, l'employeur autorisant la personne à terminer la formation pour la qualification et la certification.
À l'heure actuelle, au niveau du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, combien de formations sont proposées ?
Alors, on a à peu près entre 600 et 800 sessions.
Quand même.
Quand même. J'avoue que c'est quand même en baisse, puisque les budgets sont en baisse pour tout un chacun. L'État se désengageant de la formation.
On en parlera tout à l'heure.
Voilà. Mais on a un certain nombre de formations. Je ne vais pas vous faire le catalogue là maintenant.
Oui.
Mais c'est très très varié, et ça va aussi bien de l'agriculture jusqu'à le secteur médico-social. Ce n'est pas ma partie, mais j'ai une collègue vice-présidente qui s'occupe des formations sanitaires et sociales. La petite enfance, le commerce, le tourisme, l'agriculture, je crois que je l'ai dit, l'industrie aussi, où on a une particularité à partir de 2024, c'est à la demande des employeurs de déclencher une formation dans les 6 à 8 semaines après la demande.
D'accord.
Et ainsi répondre aux besoins des formations assez courtes malgré tout, mais qui peuvent répondre aux besoins des employeurs. Mais il faut qu'ils nous passent commande.
Isabelle, on part sur une pause musicale. On se retrouve dans un petit moment. Et je vous rappelle, vous êtes toujours dans la matinale avec Isabelle Liron, qui est vice-présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, en charge de la formation professionnelle. À de suite.
Radion. Radion. Pop. Électro. La matinale sur Radion.
Toujours dans la matinale, ceci jusqu'à midi, et je peux vous dire, il se fait pratiquement 11h40, et j'ai toujours l'honneur d'avoir Isabelle Liron qui est avec moi pour cette matinale. Isabelle, quels sont les projets ou programmes en cours dans la région Bourgogne-Franche-Comté pour favoriser les mutations économiques et l'adaptation des travailleurs aux évolutions du marché ?
Alors, je parlerai plutôt de faire évoluer les carrières des personnes dans les secteurs, soit qui évoluent eux-mêmes, soit qui sont en difficulté ou qui doivent s'adapter au 21e siècle. Mmh. Et donc, nous avons des projets dans la filière automobile, puisque vous savez que d'ici quelques années, nous devrons passer du moteur thermique au moteur électrique.
Et ça, c'est toujours d'actualité. Il n'y a pas une polémique au niveau de l'Europe, hein ?
Alors, bon, je ne suis pas élue à l'Europe, alors c'est
dommage.
C'est vrai, écoutez, je ne suis pas candidate non plus aux prochaines élections européennes qui arrivent prochainement, comme chacun le sait. Effectivement, il y a des tensions parce que personne n'est pas prêt, quoi. C'est vrai que ça peut être long. En tout cas, en région Bourgogne-Franche-Comté, on est prêt à proposer des formations. Et comme vous le savez, les formations professionnelles, ce ne sont pas des formations initiales.
D'accord.
Donc, c'est vraiment en complémentarité et après les formations initiales de l'éducation nationale ou supérieure. On intervient bien dans ce champ-là. Et donc, nous sommes prêts, effectivement. Des réflexions sont en cours avec la filière auto pour adapter les formations au monde de demain et à la voiture de demain. Et c'est tout un écosystème qui se met en route, et ça peut paraître long, effectivement, parce qu'il y a toute la filière auto, depuis la conception de l'automobile jusqu'à la réparation et jusqu'à même l'après de la voiture une fois qu'elle est en fin de vie.
Et
donc ça, c'est important de le souligner, mais nous sommes prêts à monter des formations. Voilà.
On peut parler aussi d'une autre filière, c'est l'hydrogène. Oui. Comment ça se développe? Auxerre déjà est un plateau hydrogène.
Exactement. Il y a aussi du côté donc de Belfort, Nord-Franche-Comté aussi, qui est un endroit très intéressant et très très en pointe. La Bourgogne-Franche-Comté est en train de poser sa candidature pour la création d'une école hydrogène.
D'accord.
Donc là, les dossiers.
Sur quel endroit?
Alors, l'école hydrogène, en fait, c'est un label. Il n'y a pas de lieu précis.
D'accord.
Mais c'est en fait un label qui permet une synergie entre tous les acteurs du secteur, et là qui inclura à la fois donc Lyon et aussi ce que je viens de dire, le Nord-Franche-Comté, mais l'ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté, et ce qui permettra d'avoir des moyens et de développer la formation et les emplois dans le secteur hydrogène en Bourgogne-Franche-Comté. Pour l'instant, on est au stade de la candidature, donc
c'est
en réserve.
Au niveau de la formation professionnelle, par rapport aux différents départements, est-ce qu'il y a un département qui est moindre au niveau résultat?
Non, parce qu'en fait, les formations sont adaptées à la fois au territoire et au public à qui ils s'adressent. On a plusieurs types. Dans la formation, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a ce qui est préqualifiant et ce qui est qualifiant.
D'accord.
Dans ce qui est préqualifiant, ce sont les dispositifs avant la qualification, pardon, comme son nom l'indique, c'est en amont de la qualification, plus ces dispositifs de formation linguistique pour les personnes qui en ont besoin, soit qui sont en phase d'illettrisme, pour les illettrices, ou français langue étrangère pour des personnes qui viennent de pays autres et qui ont l'intention de s'installer en France et d'y travailler parce qu'elles sont réfugiées, mais qu'elles ont envie de s'installer en France et de travailler et d'y vivre. Et ensuite, les formations qualifiantes elles-mêmes.
D'accord.
Donc, les formations qui sont en amont de la qualification sont réparties sur tout l'ensemble du territoire, puisque en moyenne, même si c'est un chiffre, on n'aime pas toujours parler de chiffres, mais le dispositif amont de la qualification qualification, en moyenne, la personne fait 7 km pour s'y rendre. Donc, il y a un maillage territorial, comme on dit, hein, avec un vocabulaire un peu technique, qui est très, très bien réparti sur l'ensemble du territoire. Aucun département n'est oublié. Pour les formations, c'est aussi en fonction de l'histoire, hein, du département. Il y a des endroits où c'est plus industriel.
C'est ce que j'avais dit.
Voilà, d'autres plus agricoles. Je pense, par exemple, dans mon département, qu'est la Nièvre, à l'ouest, avec Cône, par exemple, la viticulture, mais pas que, hein. Beaune aussi, il y a la viticulture.
Nous, on a Chablis aussi.
Il y a Chablis aussi, voilà, tout à fait. On fera une émission gastronomique, voilà. Et voilà, une autre fois. Et donc, c'est en fonction de l'histoire, c'est en fonction des centres de formation, des écoles aussi qui sont historiquement implantées. Et puis, les organismes de formation s'implantent là aussi où elles le souhaitent, hein, bien entendu. On n'a pas, nous, à région, à donner d'ordre particulier en cette matière. Mais en général, les organismes de formation s'implantent aussi là où il y a les besoins et les publics.
Ouais. Au niveau de cet accès aux formations, on a parlé tout à l'heure en antenne du site internet.
Oui,
là, on ne peut pas trouver une formation. On va le demander à la personne qui nous suit dans la recherche.
Oui, on peut faire ces recherches puisqu'il y a le catalogue quand même excessivement important. Vous avez des sites et par le site de la région, on peut aussi aller chercher des formations, bien entendu. Mmh. Cependant, on travaille toujours en étroite collaboration avec ce qu'on nous on appelle les prescripteurs, les organismes pour lesquels les demandeurs d'emploi ont un accompagnement. Que ce soit, je l'ai dit, France Travail, Cap Emploi et les missions locales, par exemple, hein, mais des écoles de la deuxième chance, par exemple. Les conseillers aussi, des conseils départementaux, les conseillers en insertion professionnelle, quand les personnes sont bénéficiaires du RSA.
Ceux qui sortent de l'école, du lycée, pardon, peuvent prétendre à ces formations ?
Alors, il faut être demandeur d'emploi.
Il faut être demandeur d'emploi. Donc, il faut s'inscrire avant à France Travail,
exactement,
avant d'avoir accès aux formations.
Cependant, depuis début d'année, là, on a aussi créé au sein du conseil régional et du site du conseil régional, la plateforme stage. Mmh. Alors, ce n'est pas moi qui suis en charge directement, mais je vais faire la promotion pour les collègues qui s'en occupent, vice-présidente à la formation, à les lycées et à l'orientation professionnelle. Et donc, c'est de l'information directement accessible à la fois par les collégiens, les lycéens et après, et même les demandeurs d'emploi qui ont besoin de faire un stage. Parce que vous savez qu'à différents moments de sa vie, même scolaire, les jeunes ont besoin de trouver un stage. Et là, il y a des stages qui sont directement accessibles parce qu'on est en contact aussi avec les recruteurs.
D'accord.
Et les employeurs qui cherchent aussi des stagiaires. Donc c'est en fait pour se faire rencontrer à la fois ceux qui cherchent et celles qui cherchent un stage et ceux qui en proposent.
On peut parler des stages de troisième
aussi
ça rentre dans le critère.
Ça rentre aussi, même si la région a une compétence qui commence au lycée pour pour le bâtimentaire et ensuite les demandeurs d'emploi pour la formation, mais on est en étroit lien avec l'éducation nationale et donc on a proposé à l'éducation nationale de faire cette plateforme qui commence à monter en puissance en termes d'utilisation puisqu'on sait bien que les jeunes et leurs parents utilisent les nouvelles technologies au maximum de ce qu'ils peuvent faire.
On part sur une pause musicale et on se retrouve pour un dernier intermède avec Isabelle dans un petit moment, à de suite.
La matinale sur Radion.
Pratiquement 11h52 minutes. Dernier intermède avec Isabelle Lurin, qui est vice-présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, en charge de la formation professionnelle des demandeurs d'emploi, des mutations économiques et du dialogue social territorial. Et elle est également conseillère municipale à Corbigny. Au niveau de votre fonction, c'est long la dénomination.
Oui.
Est-ce que vous arrivez quelquefois à la raccourcir?
Oui, tout à fait, parce que en fait, l'essentiel et le budget essentiel est consacré à la formation des demandeurs et des demandeuses d'emploi. Alors, le reste n'est pas négligeable, mais quantitativement moins élevé. La première partie, formation des demandeurs d'emploi, c'est une compétence obligatoire de la région, tandis que le reste, c'est un choix qui a été fait de longue date. Donc, ça s'appelle les compétences.
D'accord. Quels sont les principaux partenariats que vous avez établis pour soutenir les actions en faveur de la formation professionnelle?
Alors, nous avons en premier lieu, bien sûr, l'État en région et l'État, puisque la moitié de nos financements proviennent de l'État, même si je disais tout à l'heure, en baisse comme partout et pour toutes les collectivités, bien entendu.
Alors ça cette baisse, elle impacte quoi? La formation
concernant le périmètre sur lequel j'interviens, elle impacte effectivement la formation, ce qui nous conduit à resserrer nos formations sur les premiers niveaux de qualification, de certification, les publics qui sont prioritaires, ce sont les plus éloignés de l'emploi, bien entendu, infrabac par exemple. Mais ce qui n'empêche pas d'intervenir auprès des seniors, auprès des personnes travaillant handicapées. Nous avons aussi une obligation de formation, et je m'en réjouis, auprès des personnes sous main de justice, pour que la sortie de prison, et nous sommes pas loin de Joux-la-Ville, pour qu'à la sortie de prison, ces personnes puissent se réinsérer dans la société une fois qu'ils ont purgé leur peine, n'est-ce pas ? Et donc on resserre sur les premiers niveaux de qualification et sur les secteurs qui recrutent, mais on peut aussi continuer à travailler avec les personnes qui ont des projets plus personnels, avec l'abondement CPF, avec des formations en co-financement avec France Travail maintenant, pour des besoins ponctuels d'entreprise, ce qu'on appelle le FRAP.
Au niveau du Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté, pour les jeunes, à un moment, il y avait une aide, c'est pour les jeunes qui nous écoutent, pour le permis de conduire.
Oui, elle existe toujours. C'est une autre de mes collègues qui s'en occupe, et pour le moment, elle existe toujours, et nous sommes en période d'évaluation de cette aide afin de vérifier la pertinence et les effets positifs sur les jeunes à qui elle est destinée.
Oui, parce qu'il y avait les points formation maintenant qui rentrent en ligne de compte.
Voilà.
Au niveau du gouvernement par rapport à cette restriction budgétaire, puisqu'il faut faire des économies, est-ce qu'il y a d'autres points qui sont impactés pour le développement de la région ?
En dehors de la formation, vous voulez dire, bien sûr, toutes les politiques sont impactées. Je ne vais pas faire de catalogue à l'après-vert, mais effectivement, on est obligé de restreindre nos aides. Mais nous avons toujours nos priorités que nous conservons, bien entendu, avec un gâteau moins important et un partage à faire entre toutes les priorités qui sont les nôtres en matière économique, touristique, par exemple. Et auprès des jeunes, du sport, de la culture, nous conservons toujours ces priorités en restriction in fine, bien entendu, mais nous les conservons.
Comment vous voyez...
C'est un exercice compliqué, mais comme pour toute collectivité, bien entendu.
Et dernière question, comment vous voyez l'avenir au sein du Conseil Régional ?
Écoutez, je n'ai pas sorti ma boule de cristal. Nous maintenons le cap et nous essayons, bien entendu, de continuer à accompagner celles et ceux qui en ont besoin. Ça, c'est vraiment notre cheval de bataille. C'est l'humain au cœur de notre action.
Isabelle, merci d'avoir participé à notre émission. Merci d'avoir répondu à mes questions. On vous souhaite plein de projets au sein de ce Conseil Régional Bourgogne-Franche-Comté.
Merci à vous, merci pour cette invitation. Bonne journée à vous.
Merci, au revoir. Radion.